Tristine Bailey est une jeune fille âgée de 13 ans qui vit à Durbin Crossing, dans le nord-ouest de St. John's, avec sa famille. Elle grandit avec ses parents Stacy et Forrest, avec ses trois sœurs Brittany, Alexis et Sophia, et aussi son frère Tegan. C'est une famille très unie, et Tristine a la chance d'être entourée de parents aimants et de proches qui l'aiment. Elle étudie à la Patriot Oak Academy, où elle y est également pop-pom girl. Tristine est une jeune fille qui vit avec son époque. Elle aime beaucoup passer du temps sur TikTok et avec ses amis. D'ailleurs, de nos jours, TikTok, c'est l'application où on voit tout le monde passer énormément de temps dessus. Au travail, TikTok, tu regardes des vidéos. Aux toilettes, TikTok. Avant de dormir, TikTok. TikTok fait partie intégrante de la vie de tout le monde maintenant. C'est là que je me dis que c'est dingue à quel point les réseaux prennent énormément d'ampleur. Enfin bon, on n'est pas là pour parler de ça. Tristine a confiance en elle et tout le monde dit qu'elle est rayonnante. C'est le genre de jeune fille qui ne se soucie pas du regard des gens. Elle a bien trop confiance en elle pour ça. La jeune fille, voulant se rapprocher de sa grande sœur Alexis, décide de passer l'été 2020 chez elle suite à l'épidémie du Covid. Les deux filles profitent de ces vacances pour se rapprocher encore plus. Mais ça permet à Tristine de grandir et aussi de gagner en maturité. Sa sœur Alexis est bien décidée à ne pas traiter Tristine comme une enfant. Elle aussi, elle doit participer à l'entretien de la maison. Et même si elle n'a toujours pas compris comment se servir d'un aspirateur, elle va aider volontiers sa grande sœur. Elle s'investit aussi en prenant soin d'un chaton blessé qu'elle a trouvé dans la rue. C'est là qu'on voit à quel point elle avait un grand cœur, cette Tristine. Elle était certes jeune, mais beaucoup de maturité pour son âge. Durant cet été, Alexis voit sa petite sœur changer et elle est très fière d'elle. Tristine commence doucement à devenir une jeune femme et elle est de plus en plus responsable. Ce changement est aussi remarqué par son frère, Tegan. Il est étonné de l'investissement de Tristine pour son activité de pom-pom girl. En effet, elle est inscrite à 3 clubs de cheerleading différents. Elle peut passer des heures à s'entraîner pour maîtriser une nouvelle figure. C'est le cas par exemple pour le backtruck. Il s'agit d'un salto arrière où l'on doit poser les mains au sol. La jeune fille est obsédée par cette figure. Elle en parle à toute sa famille et s'entraîne pendant des heures. Et ce, jusqu'à ce qu'elle finisse par la maîtriser. Ça montrait très bien le caractère et la détermination de Tristine. Mais malgré les apparences, vers la fin de l'année scolaire 2021, Tristine commence à changer. Elle semble de plus en plus indifférente et elle s'isole souvent dans sa chambre. Mais sa famille ne s'en inquiète pas vraiment. Elle ne semble pas contrariée par quoi que ce soit. Tristine ne semble pas être une adolescente à problème. Elle ne fait pas de crise d'adolescence comme certains de ses amis. Elle n'avait même jamais parlé de s'enfuir ou de se faire du mal. Mais elle avait certes le sentiment qu'elle n'avait rien fait de bien. La famille de la jeune femme ne dramatise pas la situation, mais ils font tout de même attention à ce que la jeune femme évolue dans le meilleur environnement possible. Ils la soutiennent dans tous ses projets et font le maximum pour passer du temps avec elle en famille. Comme par exemple cette journée du 8 mai, la veille de la fête des mères. Tristine et toute sa famille sortent dîner au restaurant pour l'événement. La maman est ravie de pouvoir profiter d'un beau moment en famille. Stacy, la mère de Tristine, ne savait pas qu'à ce moment-là, elle ne reverrait jamais sa fille. Le lendemain, vers 9h40, les frères et sœurs de Tristine vont la réveiller pour préparer le petit déjeuner. Mais il y a un problème, elle n'est pas dans sa chambre. La panique s'empare alors de la famille. Ils se mettent immédiatement à fouiller la maison et ses alentours. Mais la jeune fille reste introuvable. Alors à 10h, la mère de famille appelle le 911. Elle leur fait part de la disparition de sa fille et décrit de suite Tristine aux autorités. Tristine aurait été vue pour la dernière fois, la veille vers minuit, dans sa chambre par ses frères et sœurs. La jeune fille n'a jamais fugué auparavant et n'avait aucun problème. Le téléphone de Tristine n'est pas dans sa chambre et quand sa mère essaie de la joindre, elle tombe directement en messagerie. Il reste alors un espoir à la famille. Le téléphone de la jeune fille est géolocalisé grâce à plusieurs applications. Mais malheureusement, la géolocalisation a été désactivée. Les enquêteurs se mettent alors immédiatement au travail. Une enquête est ouverte et une alerte pour enfants disparus est lancée. Les recherches commencent alors pour retrouver Tristine. Les amis et les voisins de la famille viennent prêter main forte aux policiers. Ils fouillent l'école, le centre de loisirs, les parcs des environs. Mais la jeune fille est nulle part, personne n'arrive à la retrouver. L'adjoint du shérif, Kurt Hannon, fait une demande pour retracer le portable de Tristine afin de réduire la zone de recherche. Parallèlement, les enquêteurs continuent d'interroger les dernières personnes à avoir été en contact avec Tristine. Ils commencent par son ami qui se nomme Tree. Tree ou Tree en anglais, avec mon accent éclaté, était allé chez lui vers 12h30 et qu'elle s'était faufilée par le côté de la maison pour éviter les caméras de surveillance installées par le père de Trey. Apparemment, son ami connaissait l'emplacement des caméras, et pour ne pas se faire surprendre par son père, il était habituel pour ses amis de contourner la maison pour rentrer. Un autre de ses amis, Aiden Fucci, également élève de 7e année à la Patriot Oak Academy, était là aussi ce jour-là. Trey raconte qu'ils ont passé la journée ensemble, et Kayden et Tristine seraient repartis ensemble vers 1h du matin. Il donne également un élément important aux policiers, la tenue dans laquelle Tristine aurait disparu. Elle portait un t-shirt noir et gris avec le mot « pink » sur le devant et un pantalon de survêtement noir. Étant la dernière personne à avoir vu Tristine, Aiden est réinterrogé par un détective. La mère de ce dernier doit d'ailleurs donner son accord pour cela. Avec la permission de sa mère, il montre au détective où lui et Tristine sont allés après avoir quitté la maison de Trey. Il explique qu'ils ont marché jusqu'à North Durbin Parkway. Et plusieurs témoins peuvent confirmer avoir vu Tristine vers 1h15 du matin cette nuit-là. Des caméras de surveillance ont également repéré les adolescents passant devant l'entrée principale à 1h24 du matin. Les deux jeunes ont de nouveau été repérés sur une vidéo de surveillance, cette fois près de Saddlestone Drive, marchant en direction d'un étang à 1h45. Aiden déclare alors aux policiers qu'il a laissé Tristine près de chez elle pour rentrer chez lui. Et il affirme être rentré directement après, entre 3h et 3h30. Seulement, la maison de Trey est à 2 km de la maison de Tristine. Et à pied, ce chemin ne prend pas plus de 30 minutes, alors qu'Aiden est rentré 2h plus tard. Mis face à ces contradictions par les enquêteurs, Aiden va changer de version. Il raconte que lors de cette balade nocturne dans le parc, il en serait venu aux mains avec Tristine. Une dispute aurait éclaté entre les deux adolescents pour un motif quelconque. Et Tristine se serait montrée violente envers lui, et il aurait été forcé de se défendre. Il aurait repoussé la jeune fille qui se serait cognée la tête par accident en retombant. Dans la panique, il se serait enfui sans même prendre le temps de voir si la jeune fille s'était relevée ou non. Pour justifier son comportement, il explique avoir fumé de la marijuana plus tôt dans la soirée. Il explique qu'après s'être calmé, il a marché pendant un long moment avant de rentrer chez lui. Si c'était vraiment un accident, pourquoi il n'en a pas parlé à ses parents en rentrant? C'est la question que je me pose ici. Et surtout, pourquoi il n'est pas retourné vérifier si Tristine allait bien après sa chute? Tout ça semblait très bizarre, mais découvrons la suite. Ses aveux ne s'arrêtent pas là. Il veut aider les enquêteurs à retrouver Tristine. Aiden va alors faire une annonce fracassante aux enquêteurs. Tristine serait en contact avec un trafiquant de drogue via Snapchat, et ce dernier aurait sûrement des informations sur la disparition de la jeune fille. Il indique aux enquêteurs de continuer les recherches près du parc, un endroit connu pour la consommation de drogue chez les adolescents. Dans le flou, face à ces nouveaux éléments, les policiers décident de placer Aiden sous surveillance. Ils lui lisent alors ses droits et sa mère fait appel à un avocat. À ce stade, il est 15h et Tristine a disparu depuis plus de 12h. Pour continuer les recherches, les enquêteurs se rendent chez deux amis de Tristine, Samantha et Lisa. Malheureusement, personne n'est présent, mais ils arrivent à joindre leur père, Jerry, par téléphone. C'est comme ça qu'ils apprennent que Lina avait contacté Trey plus tôt dans la journée. Trey avait alors informé que Tristine était partie au milieu de la nuit avec Carlo, 22 ans. Ce dernier n'est autre que le trafiquant évoqué par Aiden. Ces éléments sont plus qu'inquiétants. Alors que ses parents la pensaient endormie dans la chambre, Tristine, 13 ans, était dehors avec un homme de 22 ans. Malgré toutes les indications de ses amis, Carlo reste introuvable et il est impossible pour les policiers de l'identifier. Enfin, vers 15h30, les résultats de la géolocalisation du téléphone de Tristine tombent. Son téléphone se trouve quelque part au centre d'une zone boisée, au sud de la Loop Nursery. Malheureusement, les bornages sont tous anciens et le téléphone n'envoyait plus de signaux. Une demande est alors faite pour avoir accès à tous les appels et tous les SMS des 30 derniers jours. Vers 16h30, la police reçoit une capture d'écran Snapchat d'Aiden sur la banquette arrière d'une voiture de police. Il y a la légende suivante. « Hey les gars, quelqu'un a-t-il vu Tristine récemment ?» Le message Snapchat a été relayé par au moins deux personnes et ses amis avaient commencé à lui répondre. « What the fuck Aiden ? Tu étais avec elle Aiden, tu sais ce qui lui est arrivé, non ?» En effet, les policiers ayant arrêté Aiden avaient oublié de lui saisir son portable et semble-t-il de le menotter. Suite à cette information, le téléphone du jeune homme sera immédiatement confisqué. Et vers 17h, ils ont finalement pu avoir accès aux enregistrements téléphoniques de Tristine. Son dernier appel date du 7 mai, vers 21h. Il n'y a aucun appel ni SMS pour le 8 mai. Rien d'étonnant quand on sait que les jeunes d'aujourd'hui préfèrent s'envoyer des messages sur d'autres applications. comme Snapchat par exemple ou Instagram. Enfin bref, les recherches s'intensifient. Les policiers ont bien compris qu'il ne s'agissait pas d'une fugue. Même si on peut se poser des questions concernant les fréquentations de la jeune femme, rien ne l'aurait poussé à s'enfuir de cette manière. Toute la communauté et les forces de police sont sollicitées. Après des heures angoissantes de recherche, c'est finalement un voisin qui va la retrouver. Après avoir effectué quelques courses, Daniel Hart, un voisin, a décidé de mener ses propres recherches pour rejoindre cet élan de solidarité générale. Là, dans la fameuse zone boisée, se trouve le corps de Tristine Bailey. Elle était allongée sur le côté droit. Ses cheveux normalement blonds étaient emmêlés et étonnamment roux. Ses cheveux n'ont pas été teints, mais ils étaient recouverts de sang. Son corps est couvert de nombreuses blessures sur ses mains, ses bras, son cou et également dans son dos. Son téléphone portable est retrouvé à proximité, avec une bague dorée et un billet de $20. Un des enquêteurs sur la scène du crime déclare avoir trouvé une empreinte de chaussure. Tout élément ou preuve que pouvaient trouver les enquêteurs était très important. Chaque détail comptait pour la suite des événements. Mais pour le moment, les enquêteurs ont une annonce à faire à la famille de Tristine. Une annonce des plus horribles et personne n'aurait aimé être à leur place. Donc ils vont annoncer la mort de Tristine à la famille. Ils sont évidemment inconsolables. Le jour de la fête des mères, leur fille a disparu et a été retrouvée assassinée. Dans certains cas, ça prend des jours ou des mois avant que l'on retrouve la victime. Parfois, elle n'est même jamais retrouvée. Ici, elle est retrouvée dans la journée, mais cela n'enlève en rien la douleur des proches. Suite à la découverte du corps de Tristine, à 18h40, le détective Thompson est retourné au domicile d'Aiden Fucci. Mais malheureusement, personne n'était présent. En attendant leur retour, la maison est sécurisée. Les policiers doivent encore attendre le mandat de perquisition. Et c'est finalement vers 20h qu'ils l'obtiennent. Alors qu'ils cherchaient des armes, un policier trouve un couteau pliant à manche bleue chez Aiden. Il ne remarque rien de suspect et le rend alors à son père Jason. À ce moment précis, ce policier vient de faire une grossière erreur, car ce couteau disparaîtra par la suite. Le père d'Aiden déclarera avoir placé le couteau sur son pare-choc avant de partir et dira l'avoir perdu en route. Il ne sera plus jamais retrouvé. Plus tard ce soir-là, avec tous les nouveaux éléments de l'enquête, les parents d'Aiden et lui-même sont placés en salle d'interrogatoire. Ses parents lui conseillent de ne rien dévoiler qui pourrait l'incriminer. Ils lui disent de ne pas parler en attendant leur avocat. Il lui explique alors que tout sera filmé pendant cet interrogatoire. Avant l'arrivée des enquêteurs, Jason, le père d'Aiden, lui demande s'il avait des blessures ou des égratignures, et aussi s'il avait déjà dit des choses aux enquêteurs. Aiden lui répond que non, qu'il avait simplement parlé d'un trafiquant de drogue avec qui parlait Tristine. Les parents de ce dernier enchaînent alors les questions, comme s'ils voulaient couvrir leur fils. Sa mère lui demande pourquoi il était mouillé en rentrant à la maison ce soir-là. Il lui répondit dans un murmure, du sang. Petite parenthèse ici, parce que je suis très curieux. Imaginez que vous avez un enfant de 14 ans, si ce n'est pas le cas. Et imaginez que celui-ci commet un meurtre. Déjà, quelle serait votre réaction en le découvrant? Et aussi, est-ce que tu protégerais ta fille ou ton fils en essayant de le couvrir? C'est une question très intéressante ici, je trouve. Parce que quand on regarde les parents d'Aiden, eux, ils vont le protéger. Et je pense qu'ils ne sont pas dupes. Ils savent très bien que c'est lui le meurtrier. Et qu'il a quelque chose à se reprocher, c'était sûr. J'attends vos réponses en commentaire. J'avoue que ça me rend curieux. Bref, vers 21h, le détective Thompson entre dans la salle d'interrogatoire. Mais ça ne sera pas concluant. Aiden n'en dévoilera pas plus. Il demande alors le consentement de Jason et Crystal pour faire un prélèvement ADN. Des photos et des prélèvements sous les ongles d'Aiden. Crystal préfère attendre l'arrivée de leur avocat qui n'est toujours pas là. Ce soir-là, les parents d'Aiden peuvent rentrer chez eux. Mais le jeune homme, quant à lui, est placé en garde à vue. Le lendemain, la perquisition de la maison des Fucci révèle plusieurs éléments troublants. Tout d'abord, les vêtements et les chaussures d'Aiden sont couverts de traces de sang. Bien que sa mère ait essayé de laver le sang du jean, des traces sont restées et ont été identifiées comme appartenant à Tristine. Ensuite, il y avait un cahier rempli de dessins à caractère violent. Parmi les dessins d'Aiden se trouvait une illustration satanique et des pentagrammes. Un autre dessin montrait une femme nue, avec des X rouges sur la poitrine et les parties intimes. Et ces traits rouges semblaient être du sang. Heureusement, le rapport d'autopsie de Tristine arrive très vite, et il n'y a aucune indication d'agression sexuelle. Mais ce qui interpella les policiers, c'est qu'il y a le mot « karma » écrit à l'encre bleue à l'intérieur de sa cheville droite. Quoi ? Karma ? Donc ce serait peut-être une vengeance ? T'imagines, à 13 ans, tu t'embrouilles avec un élève, et lui, pour te le rendre, il va... tout simplement te tuer. Cette histoire, c'est de la pure folie. Tristine avait subi plusieurs coups de couteau. Et le mot plusieurs est faible. Elle a été poignardée 114 fois, pour être exacte. Au moins 35 des blessures étaient au-dessus de la tête et du cou. Et bon nombre de ces blessures étaient de nature défensive. Ce qui veut dire qu'elle n'est pas morte sur le coup, et qu'elle a lutté pour se défendre. Il faut imaginer le temps qu'il faut pour infliger 114 coups de couteau à quelqu'un. C'est un acte odieux qui est forcément réfléchi. Mais ce qui est le plus important dans ce rapport, c'est que l'ADN d'Aiden ait été retrouvé sur son corps. Maintenant, il n'y a plus de doute sur la culpabilité du jeune homme. Il reste aux enquêteurs à prouver si son acte était prémédité ou non. Même si avec le nombre de fois où il l'a poignardé, ils avaient déjà leur idée. Le médecin légiste a trouvé la pointe d'un couteau cassé dans son corps. Le couteau lui-même a été retrouvé dans un étang, près de l'endroit où le corps de Tristine avait été retrouvé. Plus tard, la petite amie d'Aiden, qui restera anonyme, déclara à la police qu'il parlait souvent de tuer des gens. Apparemment, Aiden parlait souvent de ça à ses amis, mais personne ne le prenait au sérieux. Pour eux, c'était des petites blagues entre potes, ça pouvait pas être sérieux ce qu'il disait. Beaucoup le trouvaient bizarre, certes, mais ce n'était pas un délinquant. Il avait même un casier judiciaire vierge. Mais personne n'a semblé bon de le dénoncer avant. On apprend ensuite qu'Aiden portait toujours un couteau quand il n'était pas à l'école. Il avait deux couteaux fétiches, qu'il a nommés Piker et Poker. Piker avait été laissé chez sa petite amie, tandis que Poker, un couteau pliant, se trouvait être le couteau trouvé dans l'étang. Sa petite amie rapporte que dans le mois précédant la mort de Tristine, Aiden avait longuement parlé d'un futur meurtre. Il disait qu'il trouverait une personne au hasard, marchant la nuit, la traînerait dans les bois et la poignarderait. Et sachant tout ça, elle n'en avait parlé à personne. On ne sait pas vraiment si elle ne le croyait pas ou si elle avait peur de lui. Mais on peut se dire que comme souvent, cet horrible meurtre aurait pu être évité si sa petite amie en avait parlé avant. Mais ici entre nous, est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir? Parce que moi demain, j'ai un ami qui me dit « je vais tuer quelqu'un, je vais l'emmener dans l'étang, je vais la noyer ». Je vais jamais le croire. Je vais lui dire « Eh mais calme-toi, va prendre une douche froide, t'es complètement barjot ». Mais à aucun moment je vais le prendre au sérieux et je vais me dire qu'il va le faire. C'est pas possible. Donc ici, pour moi, je pense que sa petite amie n'en savait rien. Enfin, j'espère en tout cas. La perquisition de la maison d'Aiden a permis de découvrir 8 couteaux de poche et un fourreau pour un couteau pliant. On pouvait alors croire à la thèse du meurtre sans préméditation jusqu'aux révélations de sa petite amie. Mais avec tous ces éléments, la préméditation n'est plus à prouver. Aiden Fucci est alors arrêté et accusé de meurtre au deuxième degré. Le 25 mai 2021, son accusation de meurtre a été transformée en meurtre au premier degré. Et malgré son jeune âge, à cause du caractère horrible du meurtre, il sera jugé comme un adulte. Aiden assiste à une audience préliminaire le 1er septembre 2021, à la prison du comté de Duval. Il semble effrayé et regarde autour de lui dans la pièce. On peut le voir se balancer d'avant en arrière sur son siège, regarder autour de lui et marmonner. À un moment donné, on l'entend même parler de démons en disant les choses suivantes. « S'il vous plaît, ne laissez pas les démons prendre mon âme. Les démons vont m'enlever mon âme. » Puis il se ressaisit et dit « Pourquoi je suis ici? Je veux juste parler à ma mère et mon père. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il ?» L'avocat d'Aiden dépose une renonciation à un procès rapide et l'affaire est renvoyée au 28 octobre. Le 6 février 2023, Aiden Fucci plaide coupable de meurtre au premier degré lors du premier jour de son procès. Le juge Early Smith a posé une série de questions à Aiden. Il lui a notamment dit s'il avait besoin de plus de temps pour revenir sur sa décision. Mais il va refuser. Aiden a déclaré qu'il comprenait la décision et avait eu suffisamment de temps pour en parler avec ses parents et ses avocats. L'un des avocats d'Aiden a déclaré que plusieurs offres de défense avaient toutes été rejetées par l'État. La juge a noté qu'il s'agissait d'un accord de plaidoyer direct, ce qui signifie qu'il n'avait pas été négocié avec les procureurs. Le juge a également demandé à Aiden s'il était satisfait de la façon dont il était représenté devant le tribunal, et il a répondu que oui. Lors de son passage à la barre, la sœur de Tristine a fait quelque chose qui a choqué toute l'assemblée. Elle a amené avec elle un vase et des pierres bleues. Sans donner la moindre explication, elle a commencé à les mettre une par une dans le vase en les comptant. Personne ne comprenait pourquoi elle faisait ça. Mais après un long moment, elle est arrivée au compte de 114, puis elle s'arrêta. Elle expliqua que c'était exactement le nombre de coups de couteau qu'avait reçu sa sœur. Cela glaça le sang de toutes les personnes présentes au procès. En effet, on comprend alors qu'il a fallu énormément de temps à l'assassin pour tuer Tristine, et qu'il a certainement continué après sa mort. Après tous les témoignages, le verdict tombe sans surprise. Le 24 mars 2023, Aiden est condamné à la prison à vie. Après sa condamnation, il a été transféré à l'établissement correctionnel de Suwanee Live Oak pour purger sa peine. Il est loin d'être un détenu modèle. Il s'adonne à la contrebande, il est violent avec les surveillants et est très souvent impliqué dans les bagarres. Aiden sait qu'il restera toute sa vie en prison. Il a décidé de ne pas se remettre en question et continue d'avoir un comportement violent. Quant à sa mère Crystal, elle a été arrêtée et accusée de falsification de preuves le 5 juin 2021. Elle a été libérée environ 90 minutes plus tard après avoir déposé une caution de 25 000 $. Elle a plaidé non coupable le 23 juillet 2021 et son procès devrait se tenir en avril 2023. Les parents d'Aiden ont toujours soutenu leur fils. Et ce, malgré toutes les preuves qu'il y avait contre lui. Ils ont tout fait pour qu'il ne soit pas reconnu coupable. Ils ont menti aux enquêteurs, ils ont même essayé de dissimuler des preuves. Ici, on voit l'amour inconditionnel des parents envers leur enfant, même lorsqu'ils ont commis des actes atroces. Et c'est pour ça que je vous ai posé la question tout à l'heure et qu'elle est très intéressante. Est-ce que vous, vous auriez fait la même chose ou au contraire, vous auriez été contre votre fils? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je suis très curieux. Depuis la mort de Tristan Bailey et la condamnation d'Aiden, la frustration est grande, surtout pour la famille de la pauvre jeune fille. On dit parfois que certains drames auraient pu être évités, mais dans celui-ci, il est certain que si les amis d'Aiden, et surtout sa petite amie, avaient parlé, la tragédie de Tristan aurait été évitée. Les parents de Tristan n'avaient aucune idée qu'elle sortait de la maison sans les prévenir. Elle était pourtant géolocalisée avec plusieurs applications. Et malgré ce contrôle de la famille, elle n'a pas empêché la jeune femme de faire de mauvaises rencontres. Il est souvent difficile de trouver le juste milieu dans l'éducation des enfants. On peut vouloir les protéger au risque de les étouffer. Et on peut leur faire confiance et les laisser vivre leur propre expérience. Mais cette affaire doit servir de mise en garde à tous les parents. Ainsi se termine l'affaire Tristan Bailey. Elle est d'une tristesse inouïe. Tout va s'arrêter du jour au lendemain. Et ce, par la faute d'une seule personne. Aiden qui va lui arracher la vie de la pire des manières, avec 114 coups de couteau. C'est dire à quel point le meurtre était horrible. Mskina la pauvre Tristan, qu'elle puisse reposer en paix. J'aimerais avoir vos avis concernant cette affaire et ce que vous en avez pensé. Concernant Aiden, pourquoi il est allé jusqu'à commettre de telles horreurs? J'aimerais avoir votre point de vue sur sa santé mentale. Si pour vous ça a clairement joué ou s'il était totalement conscient de ses actes. Et aussi dans l'affaire, on a pu voir qu'il y avait des choses sataniques le concernant. Des dessins, des choses un peu sombres, effrayantes. Moi, j'ai l'impression que tout ça a été calculé. Qu'il est tombé tellement bas avec un mélange de pensées obscures qu'il finira par tuer. Enfin bref, cette vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu. Il est temps pour moi de vous laisser. Merci à vous pour votre présence et normalement, on est plus de 50 000 abonnés quand cette vidéo sortira. Merci infiniment, ça me fait trop plaisir. 50 000, c'est énorme! Je suis heureux de voir 50 000 personnes ici qui ont aimé la façon dont je raconte ces histoires, ma façon d'être, mon franc-parler, ça me fait énormément plaisir. Bienvenue dans la famille et encore une fois, et je le dis très souvent, mais c'est que le début d'une très grande aventure. Et si t'es encore là mon petit fourbe, viens me dire sur Instagram, histoire de discuter un petit peu avec moi, quel est ton plat préféré du moment? Ouais, parce que moi, j'ai des plats préférés du moment. Pendant un certain temps, ça va être des lasagnes, peut-être kebab, je sais pas, mais je suis tellement un amoureux de la bouffe que moi ça change souvent, tu vois. T'as juste à venir sur mon Instagram Mogotasama, tu m'envoies un petit message et on discute ensemble tranquillou. Et tu me dis surtout quel est ton plat préféré. Bref, il est temps pour moi de me téléporter, prenez bien soin de vous et de vos proches et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, c'était Mogota.